Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Ségolène Royal.
Bonjour Ségolène Royal.
Bonjour.
Il y a quelques semaines, vous crapahutiez en traîneau dans le cercle polaire. Aujourd'hui, vous participez au nouveau sommet de Paris, sommet voulu par le président Macron. En quoi est-ce nécessaire de réunir encore des dirigeants, des philanthropes, des ONG, quelques semaines seulement après la COP23 qui a déjà réuni tout un raout international à Bonn?
C'est nécessaire pour une raison simple, c'est qu'il faut maintenant mobiliser les financements. Et la COP23 n'a pas traité de ces sujets, parce que la COP23 traite essentiellement des sujets d'application juridique de l'accord de Paris. Mais la mobilisation des financements qui vient des milieux extérieurs au milieu étatique, c'est-à-dire les villes, les territoires, les entreprises et surtout les fonds d'investissement et les groupements philanthropiques qui, en effet, doivent mobiliser les financements privés pour lutter contre le réchauffement climatique.
Le financement, c'est effectivement la thématique qu'a donnée Emmanuel Macron à ce sommet. Mais plus généralement, vous aviez poussé un coup de gueule, pour dire les choses, en juin 2015, vous aviez dit que le cadre onusien était inadapté à l'urgence climatique. La COP, justement, c'est piloté par l'ONU. Est-ce qu'il faut sortir de ce cadre régulièrement pour entretenir la flamme de la mobilisation ?
Il faut les deux. Il faut les deux. Et d'ailleurs, ça avait été très utile quand j'avais tiré cette sonnette d'alarme. La preuve, c'est qu'ensuite, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, avait redit la même chose, qui n'était peut-être pas évident avant. Et je crois que ça a été aussi mobilisateur pour réussir l'accord de Paris sur le climat. Vous savez, COP21, ça veut dire qu'on a mis 21 ans pour faire cet accord de Paris sur le climat, alors que les alertes existaient déjà lors du premier sommet de la planète, à Rio, et par conséquent, 21 ans, 25 ans avant même, et par conséquent, ça a mis beaucoup de temps parce qu'il y a des systèmes de négociation spécialisés, de gens qui négocient entre eux sans impulsion politique. Et ce qui a changé la donne à la COP21, c'est que les chefs d'État et de gouvernement, au lieu de venir à la fin des COP, comme ça avait été le cas à Copenhague avec cet échec lamentable, ils sont venus au début de la COP21 pour donner des instructions aux négociateurs et leur dire qu'il fallait maintenant conclure. Mais il reste bien évidemment les financements. Et ce qui est nouveau aussi à la COP de Paris, c'est l'engagement du secteur privé. C'est la première fois qu'on voyait les entreprises privées et les financeurs se dire que finalement, il fallait qu'ils se bougent aussi parce que le coût de l'inaction était supérieur au coût de l'action. Ouais.
Et d'ailleurs, au passage, je signale que demain, nous recevons ici même Bill Gates à propos de l'engagement. Les investissements verts sont moins rentables aujourd'hui, c'est un fait, que certains investissements financiers. Tant que ce sera le cas, tant que l'argent ira où ça rapporte, il n'y aura pas de progrès considérable. Il faut des milliards presque pour arriver à ce que le carbone ne soit plus aussi nocif pour la planète. Comment faire pour que les investissements aillent sur le vert et pas sur ce qu'ils rapportent?
Oui, c'est la question cruciale, c'est la question centrale. D'abord, il faut de la confiance. C'est-à-dire, il faut que, et c'est ce que la France a prouvé lorsque nous avons réussi l'émission de ce qu'on appelle les green bonds, c'est-à-dire l'obligation souveraine verte. C'est-à-dire que la France, on a obtenu 7 milliards de prêts des investisseurs sur la base de la robustesse de la politique environnementale française l'année dernière. Donc ça, c'est un exemple qui est encore unique au monde. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est que les mises sur le marché des obligations souveraines, ça veut dire des prêts des investisseurs...
Oui, c'est assez technique. 90% des Français avouent ne pas savoir ce que c'est que la finance durable, d'ailleurs. C'est compliqué.
Oui, ça veut dire c'est quoi la finance durable? C'est pourtant très simple. C'est l'idée de dire aujourd'hui les flux financiers doivent aller là où on peut lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Alors on peut lutter contre le climat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'isolation technique des bâtiments à énergie positive, c'est-à-dire qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment, la route à énergie solaire, c'est-à-dire à la fois des innovations, ce qu'on appelle de rupture, les éoliennes flottantes, les hydroliennes sous-marines, là on a fait une grande première mondiale, le transport fluvial, c'est-à-dire tout ce qui ne consomme plus de pétrole, ni de charbon, c'est assez simple. le transport propre, la voiture électrique. Vous avez que la Chine est en train de prendre le leadership sur la voiture électrique. Il faudrait bien que les constructeurs français, les constructeurs européens se bougent dans ce domaine-là pour ne pas perdre...
Mais revenons sur les énergies fossiles, par exemple. François Langlais, dans sa chronique, nous rappelait que 4 banques françaises avaient encore investi plusieurs milliards, 8 milliards d'euros entre 2015 et 2016 sur le charbon. Vous aviez voulu, vous, mettre une taxe sur le charbon. Vous y aviez renoncé à l'époque, quand vous étiez ministre. Vous vous en souvenez? Vous vous rappelez quel lobby, quel frein on fait en sorte que, vous deviez...
Bien sûr que c'est des freins. Le fait même que la voiture électrique soit si lente à émerger, c'est le lobby du pétrole.
Mais c'est le coût social aussi.
Mais cela dit, ça a quand même été fait par l'intermédiaire...
dit François Langlais.
Ça a quand même été fait. Bien sûr, c'est des mutations industrielles, mais les mutations industrielles, ça se gère, c'est-à-dire ça s'accompagne, puisque les emplois de demain seront faits dans les filières de la croissance verte. Ça, c'est évident,
que ce soit
les transports, le bâtiment, l'économie circulaire, le retraitement des déchets, toutes ces questions-là, et bien évidemment les énergies renouvelables. Donc les enjeux, moi je vois émerger aujourd'hui les entreprises, ou même les start-up dans ce domaine-là, qui sont extrêmement prometteuses. Mais il faut accompagner cette mutation par des politiques fiscales incitatives. Et cette taxe, elle a été remplacée, parce qu'il y a deux hypothèses, soit on fait une taxe, soit on fait un prix du carbone. Et en fait, ce qui a été fait, c'est le prix du carbone. C'est-à-dire que dans la loi de transition énergétique que j'ai fait adopter, il est à 56 euros la tonne en 2020 et 100 euros la tonne en 2030. Et donc, le problème, c'est qu'il n'est pas assez cher au niveau européen. Au niveau européen, on n'est qu'à 8 euros la tonne. Donc, ce n'est pas assez incitatif. Donc, il faut à la fois que les pays du G20 décident ensemble de faire en sorte de lancer des obligations vertes, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les prêts maintenant soient axés sur des économies, sur l'économie bas carbone, et que d'autre part, le prix du carbone soit lui-même adopté au niveau européen à un niveau suffisamment élevé pour être incitatif à l'abandon des énergies fossiles.
Un serpent de mer, c'est la taxe sur les transactions financières, qui n'existe qu'en France et en Grande-Bretagne à ce stade. Il faudrait l'étendre à la fois à l'Europe et sans doute à plus de produits financiers, mais il n'y a que les actions. Vous aussi, vous aviez tenté, ça fait 6 ans qu'on en parle de cette affaire.
Ça fait six ans
que vous échouez.
C'est long parce qu'il faut l'unanimité. Donc il y a plein de pays qui ne veulent pas cette taxe sur les transactions financières. Donc il y a peut-être d'autres idées.
C'est le lobby bancaire qui ne veut pas ?
Oui, il y a le lobby bancaire. Il y a toujours l'argument de dire qu'il ne faut pas défavoriser la place financière et les places financières européennes par rapport au reste du monde. Donc ça aussi un argument qui s'entend.
C'est un enjeu alors que Paris, justement, veut devenir
c'est
la place financière de...
Bien sûr.
Par rapport à Londres.
Exactement.
C'est un peu contradictoire.
C'est
Madame
un peu
Macron,
contradictoire.
Là,
c'est pour ça qu'il faut trouver d'autres idées. Ouais. Moi, je serais plutôt favorable la fiscalité encourageante, si j'ose dire, c'est-à-dire, par exemple, la TVA taux zéro sur les produits propres.
Ouais,
la TVA taux zéro
sur
la voiture électrique,
Hulot, le maire,
ça permettrait quand même de faire émerger.
Vidal, eux, sont d'accord. Donc
oui, mais moi aussi, je suis d'accord sur l'idée.
D'accord.
Mais tout le monde sait, eux aussi le savent, et ils ont raison de continuer à se battre pour ça, que ça va être long, parce qu'il faut l'unanimité. En revanche, si sur certains produits, sur les énergies renouvelables, sur la voiture électrique, l'Europe décidait de faire la TVA taux zéro, c'est-à-dire de supprimer la TVA, je suis convaincu que ça redonnerait à l'Europe un outil compétitif par rapport à d'autres pays émergents qui sont en train d'accélérer. Je vois l'Inde, je vois la Chine, même les États-Unis qui sont en train d'accélérer leurs investissements.
Il y a 62%, ça fait quand même 20 millions d'épargnants en France qui sont prêts à investir dans des projets écolos.
Oui.
Et ça, il faut aussi les encourager à le faire, parce qu'aujourd'hui, ils ne le savent pas.
Ils sont encouragés à la fois par le crédit d'impôt, qui est encore là, actif. Donc, il faut se dépêcher de faire les travaux d'isolation sur sa résidence, sur son habitation. Ils sont encouragés aussi parce que maintenant, de plus en plus de communes qui sont engagées dans l'action zéro déchet diminuent les taxes d'enlèvement des ordures ménagères si il y a du compostage et si les déchets sont bien triés. Donc, la citoyenneté écologique... c'est aussi un levier très important de la mutation. Mais s'il fallait résumer d'un mot peut-être l'urgence de la situation, vous savez, en 2050, il y aura 10 milliards d'habitants sur la planète. 10 milliards. En 40 ans, la population mondiale a doublé. Et en même temps, aujourd'hui, le manque d'eau tue plus que les guerres au niveau planétaire. Donc voilà quelle est l'urgence et voilà pourquoi les demi-mesures ne sont plus de mise.
Ségolène Royal, un rapport à très attendu demain, celui de Notre-Dame-des-Landes. D'après notre correspondant Patrice Gabart, le rapport des experts qui a fuité quelques heures hier estime que la modernisation de l'actuel aéroport serait moins coûteuse que prévu et plus respectueux de la nature aussi que prévu. C'est ça la solution de sagesse ?
Écoutez, le rapport n'est pas encore publié, donc je ne peux pas commenter un rapport sur la base
Mais vous aviez reçu vous-même un rapport que vous aviez commandé, oui. Qui, en gros, arrivait à la même conclusion.
Oui, c'est ça, je pense. Ouais. Je pense que ce sera à peu près les mêmes conclusions.
Ouais. Et donc, c'est la solution de sagesse.
On verra. À l'époque, vous aviez dit... Je ne vais pas prendre de position sans... Parce que je sais comment ça va être pris sans avoir lu le rapport et sans laisser le gouvernement réfléchir sur ce rapport et sans court-circuiter une décision gouvernementale.
Il y en a un qui a déjà pris position, c'est Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre, qui a râlé.
Oui, il n'est plus au gouvernement, ça ne vous a pas échappé.
Bien sûr, mais lui, il râlait, je finis, face à l'hypothèse d'un abandon de projet, il appréciera. Ce serait un déni de démocratie, lance-t-il Emmanuel Macron et Édouard Philippe.
Oui, enfin, disons quand même, amical. Vers lui, c'est qu'il a quand même pas évacué la zone. Jean-Marc Ayrault, il est Premier ministre. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut laisser le gouvernement prendre connaissance du rapport, décider. Et moi, je ne veux pas ni court-circuiter, ni donner des leçons, parce que ceux qui en donnent, comme celui que vous venez de nommer, c'est bien garder d'évacuer la zone pour procéder aux travaux. Et pourtant, il avait la possibilité de le faire.
Voilà qui est dit. Ségolène Royal, on ne prête qu'aux riches, selon un écho du Point d'il y a quelques jours, vous êtes tentée par la mairie de Paris.
Oui, j'ai vu ça.
Oui, grande ville internationale, c'est un beau combat.
Il vaut mieux qu'on me prête des intentions que pas d'intentions.
Mais, et là, c'est une intention.
Mais non, absolument pas. Non,
et alors, dans Paris Match, Éric Hackman, qui vous a accompagné justement dans l'épaule, vous avez demandé revenir au gouvernement pour l'interrogation. Je ne dis pas plus jamais, mais ça dépend où.
Non, je n'ai pas exactement dit ça.
C'est entre guillemets. Non, et Éric Hackman est un journaliste extrêmement
sérieux.
Quand
on est engagé encore dans l'action publique, ce que je suis, on ne ferme jamais aucune porte. C'est un principe. Vous voyez, c'est parce que sinon, ça fait capricieux. Alors, je veux ça, je ne veux pas ça. On verra. On verra ce que la vie apporte.
Et en l'occurrence, non.
Et là, je m'occupe, vous voyez, de l'Alliance solaire que j'ai réunie hier. Je m'occupe de la position stratégique de la France dans l'épaule, qui est un sujet très important à la fois diplomatiquement, économiquement et politiquement, et par rapport à la question climatique. Et on verra la suite.
Et vous êtes tout à fait engagé. D'ailleurs, 22%, il y a 22% des ressources mondiales dans l'Arctique et l'Antarctique en termes de gaz et de pétrole. Ça suscite beaucoup de convoitises. On en reparlera. C'est assez fascinant de découvrir ça. Merci à vous, Ségolène Royal.
Il faut maintenant traiter la question du financement privé pour lutter contre le réchauffement climatique, vient de nous dire Ségolène Royal. La finance durable, ce sont des choses très concrètes comme l'isolation, les éoliennes flottantes, les hydroliennes, bref, tout ce qui ne dépend pas du charbon et du pétrole. Ségolène Royal qui prône une TVA à taux zéro européenne pour les produits propres. Merci beaucoup à l'une et à l'autre. Je rappelle que Bill Gates sera votre invité demain, Elisabeth Martichoux, et que l'entretien que nous venons de suivre est à retrouver sur le site rtl.fr.